Chapitre 13. Une visite à Mr. Samuel Pepys. Il est plusieurs extravagances injustifiables que peut commettre tout homme normal. Il y a aussi maintes économies qu'on ne saurait justifier. Dans ce nombre, comptons l'absurde obstination à ne pas employer une seconde allumette, d'où il résulte que tant de gens se brûlent les doigts et emploient un langage imagé. Il y a encore le désir de comprimer un message télégraphique de façon qu'il tienne dans les limites de la taxe minimum de 6 pence, désir qui fait envoyer une phrase ambiguë, un cryptogramme, alors que pour 7 pence, la dépêche aurait été claire comme le jour. Nous avons tous une tendance à faire du style dans nos télégrammes. 8 jours après l'entretien au sujet de Mr. Pepys, et quand on eut fait quelques progrès dans la lecture du journal, Maud reçut de Frank un télégramme ainsi conçu. « Mrs. Cross, Woking, Pepys, tartine beurrée, gants suède, 4 monuments, attendre tard. » Pour 6 pence, c'était une merveille, mais en tant que message, il semble que cela laissait un peu à désirer. Maud se cassa la tête à chercher, à deviner l'énigme. Elle essaya toutes les combinaisons de mots. La combinaison qui s'approchait le plus d'un sens était de ranger les mots ainsi. Pépis, tartine beurrée, gants de Suède, 4 monuments. Elle copia le message ainsi ponctué et l'étudia coupure par coupure. Pépis, cela était inintelligible. Tartine beurrée, pas de sens. Gants Suède. Oui, elle avait dit à Frank que quand elle irait à la ville, elle achèterait des gants de Suède dans un certain magasin de la cité où elle aurait pour 3 shillings 3 pence la mesure forte qui lui aurait coûté 3 shillings 9 pence à Woking. Maud mettait tant d'applications à économiser qu'elle n'hésitait jamais à dépenser 2 shillings en frais de chemin de fer pour se rendre dans un endroit où elle pouvait dépenser 6 pence de moins et à prodiguer son initiative et son énergie dans cette combinaison. Donc, dans ses gants de Suède, il y avait un foyer de lumière. Et alors, son cœur bondit de joie quand elle devina que le reste ne pouvait avoir qu'un sens. Elle devait rencontrer Frank près du monument à 4 heures et l'attendre s'il était en retard. Puis, revenant au premier mot du télégramme, avec la lumière que donnait la fin, elle comprit que la tartine beurrée devait avoir quelque rapport avec un singulier petit hôtel de la cité, remarquable par cette spécialité, et où Frank l'avait emmené 2 fois prendre le thé. Donc, ajournant à plus tard l'explication de Mr. Pepys, Maud se hâta de donner ses ordres à Gemina et à la cuisinière et descendit 4 à 4 les marches pour mettre sa toilette de ville de couleur peau de biche, toute neuve, toilette qui la remplit d'un extraordinaire mélange de joie et de remords, car elle était très chic et elle coûtait 7 guinées et elle n'était pas encore payée. Ce rendez-vous était évidemment une inspiration soudaine advenue à Frank, car il ne laissait qu'une marge tout juste suffisante pour atteindre l'endroit. Toutefois, elle eut la chance de pouvoir prendre un train pour Waterloo, ce qui lui permit d'arriver au monument à 4h05. L'heure sonna au moment précis où Frank, avec le gibus brossé et la redingote impeccable qui était sa tenue de bureau, arrivait à grands pas du côté de King William Street. Maud lui tendit la main qu'il secoua. Puis ils rirent tous les deux de cette formalité. « Je suis si content que vous ayez pu venir, ma chérie. Quelle joie vous mettez dans la vieille cité !»« Vous trouvez, je me sentais bien seule en vous attendant, rien que des bandes d'hommes et tous à me dévisager. »« C'est votre costume. »« Oh, merci, monsieur. » « Rien que ce joli brun. »« Brun, nuance, peau de biche. »« Eh bien, c'est marron. En tout cas, il est charmant. Et vous aussi, crébleu. Vous aussi, Maude. Venez par ici. »« Où allons-nous ?»« Par le chemin de fer souterrain. Nous y voilà. 2 secondes, Mark Lane, s'il vous plaît. »« Descendons. » »« Le train suivant, dit l'employé. » Ils étaient dans le souterrain méphitique avec ses 2 longs quais de planches où les trains souterrains embarquaient et débarquaient leur cargaison. Une odeur de gaz suffocante leur irritait la gorge et les faisait tousser. Tout était humide, noir ou sombre. Mais c'est un léger souci pour la jeunesse et l'amour. Dans leur joie, ils parlaient tous deux à la fois et à chaque phrase, Maud frôlait la manche de Franck. Ils étaient capables d'éclairer même tout ce qui les entourait par la beauté et l'éclat de leur amour. Cet amour allait jusqu'à faire ouvertement l'éloge de ce milieu abominable. « N'est-ce pas que c'est grandiose et solennel ?» dit Maud. « Regardez ces ombres noires !»« Quand on déterrera cela, dans quelques milliers d'années, on croira que c'est une race de géants qui l'a construit, » répondit Franck. « Les travaux modernes d'intérêt commun sont vraiment bien plus grands que ceux qui durent leur origine à des caprices de roi. Le chemin de fer Londres-Ouest est une chose infiniment supérieure aux pyramides. Regardez ces deux lumières de tête dans les ténèbres. » Deux disques d'un rouge éteint brillaient dans la voûte noire du tunnel. Avec une vitesse menaçante, sinistre, ils grossirent, grossirent et finirent par jaillir en rugissant du fond des ténèbres, suivis du train long, enfumé, avec une plainte de frein, et arrivèrent près du quai. « Voici un wagon presque vide, » dit Franck en mettant la main sur la poignée d'une portière. « Croyez-vous ? » dit Maud. « Oui, je le crois. » Et ils montèrent dans une voiture entièrement vide, car le chemin de fer souterrain est heureusement fait pour assurer l'isolement et il a cet avantage sur toutes les autres lignes. Un couple amoureux ne saurait être mieux après avoir été séparé par le cruel destin pendant près de 7 longues heures. Ce fut avec un soupir que Franck remarqua qu'on était arrivé à Mark Lane. « Quel ennui !» dit Maud en cherchant des yeux un magasin où elle pourrait acheter des épingles à cheveux. Ainsi que toute dame le sait ou le saura, il y a un rapport intime entre les épingles à cheveux et un mari amoureux. « Maintenant, Franck, que signifie votre télégramme ?»« Tout va bien, chérie. Venez où je vous conduirai et vous comprendrez tout. » Ils quittèrent la station de Mark Lane, puis descendirent à droite par une rue en pente et étroite. Au bas, il y avait une vieille église noircie par la fumée, avec un clocher carré et un petit cimetière tout à côté. « C'est l'église de Saint-Olaf, » dit Franck. « Nous y allons. » Il poussa une porte de chêne et ils se trouvèrent à l'intérieur. Des rangs de sièges modernes en garnissaient le milieu, mais les murs et les fenêtres donnaient l'impression d'une grande ancienneté. Les vitraux, et surtout celui qui surmontait l'autel, montrer ces riches teintes pourpres, si agréables à l'œil, ces cramoisies foncées qui ne s'assortissent qu'avec l'âge. Cela faisait une lumière claire mais douce, tombant par plaques d'une couleur vive sur les menuiseries brunes et les dalles grises. Ça et là, au mur, des inscriptions latines gravées sur le marbre, entourées de pompeuses figures allégoriques, armées de trompettes, car nos ancêtres soufflaient dans ces trompettes en pierre, aussi bien que dans les épitaphes de leurs tombes. Ils aimaient à mourir comme ils avaient vécu, avec dignité, avec affectation. De blanches statues s'entrevoyaient dans les ombres des angles. Lorsque Franck et sa femme passèrent dans une des salles, leurs pas réveillèrent des sonorités dans le silence de l'église déserte. « Le voici, » dit Franck en se tournant vers le mur. Il levait les yeux sur l'image moderne qui représentait un gentleman en grande perruque bouclée. L'homme avait une figure ronde, avenante, des yeux malins, une bouche sensuelle. C'était la figure d'un homme d'affaires, d'un bon vivant, avec cette nuance de sensualité qui plaît et donne une expression humaine, aimable. Au-dessous, une pancarte imprimée disait « Samuel Pépiz, monument élevé par souscription publique, 1883. Oh, n'est-ce pas qu'il est très bien ?» dit Maud. « C'est un type qui n'a pas trop mauvaise figure, n'est-ce pas ?»« Je ne crois pas que cet homme ait jamais battu sa femme ou donné des coups de pied à la domestique. » Autant dire que c'était un menteur. Ah, mon cher, j'oubliais qu'il l'a dit lui-même. Dès lors, je suppose qu'il a fait. Cela semble bien malheureux.
Rassurez-vous, nous devons dire ce que dit la vieille dame païenne quand on lui lisait les évangiles.
Qu'a-t-elle dit ?
Elle dit, « Ah, il y a si longtemps de cela, il faut espérer que ce n'est pas vrai. »
Oh, Franck, comment pouvez-vous raconter de pareilles histoires dans une église ? Supposez-vous réellement que Mr. Pépys est dans ce mur ?
Je présume que le monument indique le lieu de la sépulture.
Il y a un petit bout de plâtre qui ne tient pas. Pensez-vous que je pourrais le prendre ?
Ce n'est pas très convenable.
Mais cela ne peut rien faire. Ça ne tient pas et nous sommes tout à fait seuls.
Elle détacha la petite plaque de plâtre et au moment même, elle eut un sursaut car elle entendit tout près d'elle un renâclement de colère et elle vit un singulier petit homme comme séché à la fumée, habillé de noir, qui semblait avoir poussé en un clin d'œil à la façon des génies orientaux ou d'un génie moderne. Une paire de pantoufles en feutre noir expliqua son apparition silencieuse.
« Remettez cela en place, jeune dame, » dit-il avec sévérité.
La pauvre Maud tendit sur le creux de sa main la relique défendue.
« Je suis bien fâchée, » dit-elle, « je crains de ne pouvoir l'y remettre. »
« À ce compte-là, nous finirons par voir l'église s'en aller par petits morceaux, » dit le clerc. « Vous n'auriez pas dû le faire tomber. Vous avez eu grand tort. » Il grommela, hocha la tête.
« Ça n'a pas d'importance, » dit Franck. « Le plâtre pendait et il serait tombé quand même. Ne faites pas tant de bruit pour une bagatelle. »
Le clerc regarda le jeune gentleman. Il vit du défi dans l'expression d'un de ses yeux et une demi-couronne dans sa main.
« Bon, bon, » dit-il une voix bourrue, « ça prouve que cela intéresse la jeune dame et on ne peut pas en dire autant de la plupart. Tenez, monsieur, vous me croirez si vous voulez, mais sur 100 personnes qui viennent dans cette église, il n'y en a pas une qui connaisse Pépys seulement de nom. »«
Pépys, qu'elles disent. Qui ça, Pépys ?»«
Le diariste, que je réponds. »«
Le diariste, qu'elles font. Qu'est-ce qu'un diariste ?»
C'est à s'asseoir pour pleurer.
Mais peut-être, miss, vous vous figuriez que vous avez enlevé ce plâtre de sa tombe ?
Oui, je le pensais.
Le clerc eut un petit rire.
Eh bien, ce n'est pas ça. Je vais vous dire où il se trouve en réalité, si vous me promettez de ne pas en emporter un autre morceau.
Eh bien oui, c'est là, près de la table de la communion. Je l'ai vu de mes propres yeux et sa femme dans le cercueil au-dessous.
« Vous l'avez vu ?»«
Oui, monsieur, je l'ai vu, et il y a bien des vivants qui ne peuvent en dire autant, car nous n'étions que quatre, et les trois autres sont morts, ainsi que ce Pépys. »«
Oh, dites-nous cela !» s'écria Maud.
Eh bien, miss, voilà comment cela se passa. Nous avions à nous rendre compte de la place qui restait là-bas dessous, et c'est ainsi que nous les avons trouvés. »«
Et qu'avez-vous vu ?»
« Voici, miss, son cercueil était dessus et celui de sa femme dessous, ainsi qu'il fallait s'y attendre, vu qu'elle mourut près de 30 ans avant lui. Le cercueil était en très mauvais état et nous avons pu voir Pépys aussi bien que je vous vois. Quand j'y regardais, je le vis très bien, un homme gros et court, les mains croisées sur sa poitrine. Et au moment même où nous regardions, il se ratatina, comme vous pourriez dire, autour de l'os de la poitrine, et se réduisit bientôt en un tas de poussière. C'est ainsi qu'ils font quand ils sont exposés tout à coup à l'air frais. Et il en fut de même pour elle. La poussière de Pepsi passa à travers les fentes du bois et se mêla aux cendres de sa femme.
« Oh, Franck !»
Et les larmes, déjà prêtes à jaillir, montèrent aux yeux de Maud. Elle posa sa main sur celle de son mari et fut surprise de la trouver aussi froide. Les femmes ne se rendent jamais compte que le sexe mâle est le plus sensible. S'il n'avait pas dit « Oh, Maud !», c'est qu'il n'avait pas pu.
On se servait dans ce temps-là d'une poudre analogue au poivre pour les embaumements, dit le clerc.
Et le curé, c'était au temps du père Bellamy, en prit une pincée dans la tombe. Il se mit aussitôt à éternuer au point que nous nous demandions si nous n'irions pas chercher un médecin. « Avez-vous vu la tombe de Mrs. Pepys ?»«
Non, nous arrivons à l'instant même. » »«
Elle est à gauche de la table de communion. »
« Celle où il y a une femme qui se penche en avant ?»«
Oui, monsieur, c'est Mrs. Pepys elle-même. » Elle avait une figure pleine d'une rieuse coquetterie, une figure de toute jeune femme. Le sculpteur l'avait représentée se penchant en avant, dans une pose pleine d'animation et de naturel. Au-dessous étaient gravés ces mots. « Obiit, 10e Decembris, Etatis 29, Confugii 15, Anno Domini 1669. »«
Pauvre petite !» dit tout bas Maud.
C'est malheureux qu'elle soit morte au moment même où son mari commençait à devenir célèbre et prospère, dit Franck, elle qui lui avait lavé ses chemises, qui avait allumé les feux de charbon au temps où ils vivaient ensemble dans un grenier. Quel dommage qu'elle n'ait pas connu le bon temps.
Eh bien, si elle l'aimait, mon chéri, elle a connu le bon temps dans le grenier.
Maud se penchait en avant, la figure levée pour regarder le buste de la défunte, qui se penchait aussi comme pour la regarder. Une paire de crânes en marbre flanquait la tombe de la dame. Un rouge rayon du soleil couchant passa par une fenêtre latérale et enveloppa tout le groupe dans sa lumière pourprée. Franck, debout dans l'ombre, à l'arrière, promena ses yeux de la figure de la jeune épouse morte à celle de sa charmante femme si jeunette, entre ses deux crânes lugubres, et il sentit monter en lui comme une vague la pensée de l'horreur qui gît dans les choses, la terminaison terrible du défilé passager, les noires ténèbres où va se jeter le flot incessant de la vie. L'esprit résistera-t-il plus que le corps? Et s'il n'en est pas ainsi, ne sommes-nous pas l'objet d'une infernale mystification?
Il résistera, cela doit être, dit-il.
Eh bien, Franck, cher Franck, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout pâle.
Retournons au grand air, Maud. J'en ai assez de l'atmosphère renfermée de cette vieille église.
L'atmosphère renfermée, dit le clerc. Eh bien, nous avons le Lord Maire qui vient ici au moins une fois l'an et il n'a jamais trouvé que ça sent-il renfermé. Vous ne trouverez pas dans la cité de Londres une église plus propre, plus fraîche. Elle a fait son temps, j'en conviens. Il y a eu une époque, je m'en souviens bien, où les gens avaient l'habitude de dépenser leur argent là où ils l'avaient gagné, où le plateau était couvert de billets et d'or, et maintenant nous n'y trouvons guère que de la menue monnaie. Il y a eu 50 ans de cela, quand j'étais jeune clerc, vous ne le croiriez pas, mais j'ai vu, assis sur un seul banc, dans cette même église, un Lord Maire en fonction, un Lord Maire sortant de charge et un Lord Maire élu. Et vous dites que ça sent le renfermé ?
Franck apaisa le ressentiment du vieux clerc et lui expliqua que, pour lui, renfermé avait le sens d'intéressant. Il lui donna ensuite une certaine poignée de main que l'homme reçut dans le creux de sa main appliquée sur son dos. Puis Maud et lui regagnèrent la rue droite qui est dénommée Sissing Lane.
« Mon pauvre vieux, qu'aviez-vous donc ?» demanda Maud en levant des yeux pleins de sympathie.
C'est à des moments pareils qu'un homme comprend ce que signifie la société d'une femme. Les nuages se fondirent au soleil.
Quel âne je suis! Je commençais à penser à un tas de choses horribles.
Ça ne fait rien, Maud. Nous voici en congé. Au diable l'avenir, vivons pour le présent.
C'est ce que je fais toujours, dit Maud, et elle parlait au nom de son sexe.
Eh bien, que faisons-nous maintenant? Rôti beurré ou gants de Suède?
Les affaires d'abord, dit Maud d'un ton de commandement.
Et elle se mit en devoir de faire l'économie des sixpences sur les gants. Néanmoins, comme elle fut tentée, ce commerçant était si obligeant, Franck, d'acheter 4 yards de bordure en soi-disant astrakhan, une collerette en dentelle torchon, 6 petits mouchoirs festonnés, ils étaient si jolis, et 4 paires de bas à jour, toutes choses auxquelles elle ne songeait point quand elle entra dans le magasin. Son économie de 6 pence ne fut pas une opération financière aussi brillante qu'elle se l'imaginait.
Puis ils achevèrent leur excursion dans la salle sombre, lambrissée, au plafond bas d'une hôtellerie à la vieille mode, qui fut jadis la mère d'un grand nombre de coches, et qui depuis, devenue inféconde et abandonnée, avait gardé des jours d'autrefois un certain tour de main pour la confection des rôtis beurrés. Ils furent servis par un nouveau garçon. Il les prit pour des amoureux et flaira une intrigue, mais lorsqu'ils eurent demandé une seconde assiette de rôti et une cruche d'eau bouillante, il reconnut le sain appétit des gens mariés. Puis, au lieu de rentrer à la maison comme un bon petit couple, Maud se mit tout à coup en tête qu'un excellent moyen de dissiper tout à fait les idées noires de Franck serait d'aller au Globe voir la tante de Charlet. Ils passèrent donc une heure ou deux à flâner, à courir les magasins, pour aller ensuite se tasser au fond du parterre, où ils furent comprimés entre de braves gens, pleins de bonhomie, qui n'avaient pas honte de manifester leurs émotions, et on rit à n'en pouvoir plus. Puis on rentra chez soi, comme eût dit l'ami Pépise. Ce fut là une de ces journées qui restent dans la mémoire et qui apparaissent comme de l'or parmi des gros draps, au temps où, vieilles gens, on évoque des souvenirs, où l'on songe à ce cher, bien cher passé. Puissions-nous, vous et moi, lecteurs, en avoir beaucoup de ces jours-là à évoquer lorsque nous serons assis dans le fauteuil où nous fumions notre vie au coin de la cheminée, de ces jours auxquels notre esprit se reporte comme à des moments charmants, innocents, embaumés, pour nous réconforter aux heures sombres que l'avenir nous réserve.